J'ai une question qui est anecdotique sous un certain rapport. Est-ce que Fortman était-il catholique?
Ah. Alors, il était balois. Bon, c'est pas une réponse. Je pense qu'il était protestant. Pour autant, je sache. Hein. Je pense, disons que ça, appelons ça sa religiosité, ça ne se manifeste pas de manière explicite. Hein. Voilà. Mais, enfin, la question est pertinente, évidemment. Donc, c'était... Oui. Donc c'est... Mais il y a peut-être quelque chose qui est sous-entendu dans ta... Est-ce qu'il y aurait... Il n'y aurait pas quelque chose chez lui, enfin dans ce que j'ai essayé de restituer, qui serait plus de sensibilité catholique, pour dire des choses comme ça. Même la splendeur du monde, il me semble. Enfin, voilà, c'était...
Oui, bah, la cathédrale est plutôt catholique, là, protestante. Pas comme manifestation, comme auto-présentation.
Oui, attendez, je suis un peu gêné par les spots, hein, mais je vous vois. Voilà, c'est bien.
On ne pourrait pas dire que Portman est peut-être un peu frileux. J'entends par là qu'il constate dans l'apparence des animaux un ordre qui peut donc pas être donné par le hasard. Et il dit, ben voilà, c'est pas du hasard, c'est une énigme. J'ai l'impression que d'un point de vue métaphysique, il y a des implications gigantesques qui sont données par ce constat que c'est pas du hasard. Lui, il a été jusqu'à dire qu'il y a de l'autoprésentation, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des penseurs successifs aillent plus loin, parce qu'on reste un peu, me semble-t-il, on reste un peu sur notre fin. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ok, il s'autoprésente.
Je n'ai fait qu'amorcer quelque chose, évidemment. Hein. C'est vrai que je songe aussi à la suite dans cette conférence. Et c'est vrai que c'est, je ne dis pas grand-chose de voilà.
Mais je voudrais juste faire une remarque, si je peux en faire une, Lucas. Mais je ne pense pas que ce soit la question la plus importante d'abord par rapport à ce qu'on a entendu. C'est-à-dire la question du hasard, elle se pose à deux niveaux. Ontogénétique, c'est-à-dire le développement d'un organisme qui existe déjà, et là on voit bien qu'il n'y a pas de hasard. On voit bien que la poule engendre une poule, et puis l'œuf de poule se constitue à partir vraiment d'un ordre qui est celui de. Et puis il y a la question vraiment phylogénétique de l'apparition d'une nouvelle espèce. Comment se fait l'apparition d'une nouvelle espèce? Ce qui n'est pas exactement la même question. Et on pourrait très bien repérer un ordre très très cohérent dans un vivant, mais dire que l'apparition de la nouvelle espèce vient là du hasard. C'est deux choses, deux questions différentes. Mais ce qui est très important de voir, c'est que surtout Portman veut montrer que la finalité de la forme n'est pas l'autoconservation. C'est surtout ça qui est important. Je pense que c'est plus important. La question, c'est pas tellement la modalité, parce qu'à la limite, Portman pourrait reconnaître qu'il y a eu des phénomènes, des aberrations où le hasard intervient. Mais c'est pas le problème. L'idée, c'est que c'est pas l'autoconservation qui permet de penser l'apparition d'une forme, d'une espèce. Voilà. C'est ça le plus important. Enfin, je sais pas si tu serais d'accord.
Ben oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire, comment. Ben, j'ai surtout insisté sur les limites de la théorie de. Mais en effet, on peut rester sur sa fin. Évidemment, le problème, c'est que c'est une approche négative et qu'il faudrait davantage souligner la positivité. Enfin, donc,
bon. Mais je crois qu'il ne faudrait pas faire de Portman un nouveau William Paley, qui était celui qui était avant Darwin et qui. Palais, c'est P-A-L-E-Y, vous savez, qui est celui qui dit, voilà, si on trouve une horloge dans le désert, ben, on voit bien qu'elle a été faite par un homme. Quand on rencontre un animal ou un organisme, ben, on voit bien qu'il y a une intelligence, donc il y a Dieu. Si on chercherait cela chez Portman, on ne le trouverait pas, parce que ce n'est pas l'enjeu presque. Parce que l'enjeu, il est presque plus fondamental. Quand je dis plus fondamental, c'est que le problème, c'est pas de déboucher sur Dieu. Parce que quand vous débouchez sur Dieu, vous pouvez être un fondamentaliste musulman, vous pouvez être sur n'importe quoi. Et enfin, j'y reviendrai, mais par la suite, je pense. Parce que je suis très ennemi, en fait, de l'intelligent design, je vous dirais.
Ah oui.
Ouais. Mais. Non, mais c'est, je vais vous dire, parce que je vous expliquerai peut-être demain pourquoi. Mais. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est la conception d'un Dieu comme ingénieur. Et en fait, c'est l'apothéose de l'ingénieur qui est derrière.
Oui, mais ça, c'est un texte que tu m'avais envoyé, d'ailleurs.
Oui, voilà, je t'ai envoyé.
Oui, je
mais,
pense.
Mais la question pour lui, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'il en est du monde visible. Autrement dit, est-ce que le monde, non seulement primaire, mais ultime, c'est le monde visible, celui dans lequel nous naissons? Ou alors, est-ce que... c'est vrai, et ça vient aussi de la religiosité qu'on pourrait critiquer, que c'est les structures invisibles qui sont la vérité du réel. Parce que c'est ça ce qu'il critique, c'est une critique de l'invisible chez Portman, de l'invisible comme structure cachée, etc., un mépris de ce qui apparaît, ce qui est donné. Et ça, c'est très original, en fait. C'est pour ça qu'on pourrait très bien critiquer même des formes, je dirais, de conception religieuse où on aboutit immédiatement à Dieu, où on va vers l'invisible, où on va... C'est pas l'enjeu d'abord, je crois. Enfin, voilà, je vais insister là-dessus parce qu'il ne faut pas tout de suite aller vers... Parce que finalement, c'est même pas intéressant. Non, mais on s'en fout, c'est pas les... Quand on étudie un animal, on ne cherche pas une preuve de l'existence de Dieu, c'est ça ce que je veux dire, c'est pas ça qui est important.
J'avais la question quasiment inverse de Lucas, je me demandais s'il n'était pas allé trop loin en tant que zoologue, quel regard ses pairs portent sur ce travail. Parce que quand on parle d'auto-présentation, c'est déjà avancé faire un pas qui est déjà celui du philosophe. Et quelle postérité il a eu aussi par rapport à dans son domaine, est-ce que c'est qu'il a fait des
disciples? Il y a. Il y a eu beaucoup d'élèves, donc encore, il y a des, encore quelques-uns qui sont encore en vie. Donc, je pense qu'il était de manière évidente très mal vu dans sa confrérie. Alors, il y a un an ou deux, j'avais rencontré, je pense qu'il était une grande figure suisse. Gehring, je crois qu'il s'appelle, grand biologiste de Zurich, d'ailleurs, je pense. Et j'avais essayé de lui dire, je m'intéresse à Portman, et j'ai bien senti qu'il n'était pas content. Et je me demande même s'il n'y a pas un reproche comme quoi le fait qu'il y ait eu Portman à Bâle pendant très longtemps a empêché certaines avancées scientifiques. Enfin, c'est un peu de cet ordre-là. On a maintenu une conception... rétrograde, enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, je pense que c'est clair. Et alors, il y a des choses que j'ai pu lire. Bon, je n'ai pas tout lu, évidemment. Enfin, on peut retrouver certaines choses. Oui, des attaques vraiment assez, assez fortes. Hein. Donc, c'est non scientifique. Voilà. Je pense que, voilà, c'est... Ah, attendez, peut-être là derrière, oui. Bon, d'abord, évidemment, le concept même de téléologie, il faut le prendre avec prudence, évidemment. Hein. Donc c'est moi qui me risque. Non, mais ça apparaît chez lui. Dans des formules, c'est-à-dire, il n'emploie pas, peut-être autant que je l'ai fait, le concept même de téléologie, mais à partir du moment où on dit... on a affaire à des configurations qui sont destinées à apparaître, l'idée même de destination, implique donc quelque chose comme une téléologie, mais une téléologie. Alors, là, c'est là qu'il faudrait donc faire pratiquement toute une conférence, tout un séminaire sur, évidemment, sur la finalité. La téléologie, c'est une téléologie interne. Je pense qu'il y a des distinctions de ce type-là chez Kant, justement. Hein. Donc, on n'est pas. Et là, ça apporte un éclairage ou un complément. On n'est pas dans une interrogation sur le sens ultime dans l'univers de tout ça, ou sur le rôle que Dieu pourrait avoir eu là-dedans. Il y a tout de même une considération, dans un premier temps, je n'oserais pas dire immanente non plus, tout ça, c'est des mauvais outils conceptuels, mais... On est tout de même dans une considération du monde tel qu'il nous apparaît et dans quelque chose comme une intentionnalité qui est interne à ce que nous voyons. Voilà.
Mais la question, c'est est-ce que c'était le fait qu'il avait cette qu'il était aussi artiste, enfin qu'il avait
Le rôle du dessin. Quel est le... Non, je ne crois pas. Le rôle du dessin, c'est plutôt d'être le médiateur entre le sensible et la pensée, je dirais. Je ne pense pas que qu'on puisse voir un lien là dans le
rôle du dessin. Moi, j'ai lu quelqu'un qui s'appelle Jacques de Witt.
Qui a dit des choses que j'ai moi-même oublié.
Non, mais qui fait un lien. Je l'ai lu comme un lien dans la préface de la forme animale. Où tu dis que le dessin est une école du regard.
Oui, une école du regard, c'est absolument.
Parce que dessiner quelque chose, c'est apprendre vraiment à le voir.
Voilà.
Et à le voir mieux que si on le regarde comme ça. Enfin, on ne le regarde pas, on le voit simplement. Et que c'est ça qui l'a rendu aussi si attentif à la générosité, je pense, des formes.
Oui.
La générosité des formes. Voilà. Bon. Enfin,
désolé. Non, mais ça, bien entendu, l'école du regard, là, c'est Goethe qui avait écrit « Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas encore vu. »
Oui.
Bien sûr, mais moi, c'était dans une tentative pour répondre à la question « Est-ce que c'est ça qui l'a amené à discerner ce que j'appelle cette téléologie ?» Voilà, c'est là que j'avais une hésitation. Oui ? Ah non, là, c'était d'abord... D'abord, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était plutôt là.
Oui, c'est par rapport à la science. En quoi, en fait, la science qui se présente quand même comme très humble a induit cette méthodologie, elle a induit une vision fonctionnaliste du monde. Et en fait, qu'est-ce que serait la science sans cette méthodologie peut-être supérieure?
Je ne comprends pas très bien, saisis pas la question.
Pourquoi la méthodologie scientifique aurait induit une vision fonctionnaliste du monde?
Ben, parce que, sans le savoir, je dirais, les scientifiques, ou la plupart d'entre eux, ont adopté une ontologie, ou une métaphysique implicite, le mode de pensée des sciences modernes, que je cite souvent, Spemann a appelé l'inversion de la... Enfin, là, on est de nouveau dans la téléologie. L'inversion de la téléologie. Donc là, si vous voulez, je pense que effectivement, la question donne à réfléchir. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'absolue nécessité à ce qu'un scientifique considère que tout, en dernière instance, sert à la survie, à la conservation? Après tout, non. Après, finalement, je me dis en vous écoutant, non, pas vraiment. Mais en quelque sorte, de manière naïve, oui, bon, ils ont repris l'idéologie dominante, enfin, disons, voilà, pour dire les choses comme ça. Bon, ce qui peu, enfin, mais ça c'est un peu plus connu, ce sont des banalités, de la même façon que Darwin a pu reprendre une idéologie dominante de type enfin, de la lutte pour la vie, etc. Donc, voilà, je garde ce de votre remarque, le fait qu'au fond, il n'y a pas d'absolue nécessité à ce qu'un scientifique tienne absolument à ce que tout s'explique par, par la conservation. Oui, je dirais ça.
Est-ce que c'est pas le poids des... Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire de la pensée. Est-ce que ce n'est pas le poids, quand même, de théorie économique ? Ah. Parce qu'on a l'impression, quand même, que cette ontologie, enfin, que Spemann appelle ontologie bourgeoise, donc c'est cette idée qu'on fait tout pour s'autoconserver, enfin, c'est quand même le modèle de l'individu des théories microéconomiques. Où voilà, l'individu cherche l'optimisation de sa courbe de plaisir, cherche l'accumulation, cherche. Mm-hmm. Enfin, c'est quand même très étonnant. Est-ce que et on voit bien que ça vient de enfin, c'est contemporain de certaines de ces sciences aussi. Mais on voit apparaître ça dans des théories économiques. Enfin, Darwin lui dit hein, qu'il a hérité de certaines théories économiques. Mais il le dit explicitement. Ma vraie question est la suivante. Est-ce que le monde primaire, bien sûr, c'est le monde où on voit les choses. Mais le monde primaire, c'est le monde de l'éikos. C'est aussi la manière dont les choses nous sont données à travers une économie, toujours. Les scientifiques, est-ce qu'ils ne sont pas marqués ? Ils adoptent souvent aussi hein, le mode de production du monde. C'est un peu marxiste ce que je dis, hein, mais en fait, que les modes de production influent sur les modes de pensée, et que c'est ça qui serait.
Mais au risque de perdre ce qui a pu être caractéristique de la pensée, peut-être même la contemplation, l'admiration, voilà. Donc pourquoi est-ce que les scientifiques pour la plupart d'entre eux, ont perdu ce qui était une des sources de l'Europe, enfin, dans la science grecque tout de même, qui était alors est-ce que c'était déjà la science ou est-ce que c'était une attitude plus fondamentale? Bon, enfin voilà, je découvre plein de choses en écoutant tout ça. Oui, monsieur, oui.
Vous avez parlé, je crois, d'un présupposé ontologique, hein, que l'autoconservation est le principe fondamental. Et je suis assez d'accord avec vous. Et puis il y a eu cette question, mais d'où vient, dans le fond, l'idée que c'est quelque chose de fondamental? Et là, Hobbes, je trouve, est très intéressant. Il a, paraît-il, c'est pas absolument certain, rencontré Galilée. Et il était très intéressé, en tout cas, à le rencontrer, s'il ne l'a pas fait, à cause du principe d'inertie. En cause, parce que je veux dire, à la base de ça, je crois qu'il y a une certaine idée du mouvement au sens physique, du déplacement local. Et cette idée du principe d'inertie, qui est une loi fondamentale de la physique, que le mouvement, sans interférence extérieure, se conserve comme il est, indéfiniment, pour l'éternité. Et je crois qu'il y a cette idée, et c'est pour ça que je trouve que vous avez raison, en disant c'est un présupposé ontologique, qui est de dire, dans le fond, la vie, c'est un mouvement, comme le mouvement physique, et la loi d'inertie, de
aussi pour la vie. Oui, 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 mais alors là...
Et la forme que prend l'inertie, quand il s'agit de vie, c'est la conservation de l'éternité.
C'est ça. Et alors là, ça c'est intéressant ce que vous dites. Enfin, il y a quelqu'un qui est un de mes amis et avec qui je dialogue, qui sera présent demain, c'est Yann Marechko, qui habite Genève, qui a écrit plusieurs livres, d'ailleurs largement méconnus, donc notamment qui connaît bien la science, la cosmologie. Et ce que vous venez de dire, je pense que ça irait tout à fait dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y a eu... Donc ce principe d'inertie serait une des sources, enfin, de... Mais le mouvement n'a pas toujours été compris comme de cette façon-là. Enfin, chez Aristote, c'est pas ça. Hein? Donc, il y a quelque chose, j'emploie des grands mots, une révolution ontologique qui a eu lieu dans les temps modernes, avec des différentes, peut-être, manifestations, modalités, principes de conservation, ce que Spemann décrit comme inversion de la téléologie, principe d'inertie, hein, donc ce mouvement, le mouvement a toujours été un mouvement vers, un mouvement orienté, hein, avec Aristote, et ce mouvement n'est plus orienté, hein, donc c'est un, c'est le principe d'inertie, quand je songe à des, notamment, mettons, films de science-fiction, Stanley Kubrick, etc., et ces pauvres astronautes qui sont en mouvement, qu'est-ce que c'est pour un mouvement, je pense que c'est important ce que vous dites, mais que ça pourrait être en même temps à rattacher aussi avec la théorie politique de Hobbes. Enfin, je pense que ça, plutôt, c'est important, mais Marechko sera là demain éventuellement. Vous pouvez voir. Je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que lui-même analyse. Voilà.
Oui, j'avais peut-être. Comment est-ce que il formule cette idée de finalité? Il réfléchit sur cette idée de finalité qu'il utilise pour dire que l'autoprésentation est la fin véritable. Anderson, hein, vous avez dit, vous hésitez à utiliser le terme maintenant. Et puis en même temps, on peut dire la vie est sans pourquoi. Je crois que c'est le titre de votre article que j'aime beaucoup.
C'est le titre de. Oui, bien sûr.
C'est l'échec de toutes les explications causales et on a une fin qui n'est pas une explication causale. Évidemment. Mais comment on peut affirmer les deux choses en même temps la vie est sans pourquoi.
Oui, écoutez, quand je dis, ça c'était moi, hein, c'était la. Il ne faut pas me confondre, ça a été un peu ma responsabilité, évidemment, en écho avec Heidegger, évidemment. Hein, donc, la rose est sans pourquoi. Je crois qu'on ne peut pas en rester là, si vous voulez. Je pense que j'ai vu moi-même des impasses de ce côté-là. Hein, si on dit simplement c'est sans pourquoi, je pense que à ce moment-là, ce n'est qu'un vide. Enfin, c'est.
La phrase, donc j'explique la phrase de la rose c'est sans pourquoi.
C'est ah oui.
Une phrase d'un mystique germanique qui s'appelle Angelus Silesius. Voilà. Donc, vous pouvez lire d'ailleurs, c'est de la poésie. Hein, c'est vraiment, parfois c'est un peu assez hétérodoxe, mais c'est la mystique chrétienne. Hein. Et donc il y a
la rose et son pourquoi.
Voilà. Son œuvre s'appelle la Pèlera Chérubin. Et donc c'est ça.
C'est connu surtout parce que Heidegger, dans un cours, dans un livre qui consacré au principe de raison, hein, une lecture de. De Leibniz, arrive à un certain moment
Mais alors je voulais venir à ça sur la question du sans pourquoi, juste pour vous dire, en lien avec la théologie surtout. Le sans pourquoi peut être le vide, ça peut être le sans pourquoi de l'absurdité, mais il y a un autre sans pourquoi. Vous savez que les explications causales s'arrêtent vers une cause première qui elle-même est sans cause. Oui. Sans pourquoi. Dieu, la cause première, elle est sans cause. L'engendrement à l'intérieur de la Trinité n'est pas d'ordre causal. En théologie trinitaire, on dit bien que ce n'est pas le Père qui est cause du Fils. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, c'est très important. Et quand on dit que Dieu a créé le monde par amour, par exemple, est-ce qu'on est en train de donner une explication? Est-ce que c'est une explication causale par amour? En fait, non. Parce que si on dit Dieu a créé le monde pour ceci ou pour cela, ben c'est plus par amour, vous voyez. Et alors, Saint Augustin dit bien, dire que Dieu a créé le monde par amour, c'est par une sorte d'acte de gratuité, d'accord ? Donc c'est sans pourquoi. S'il était soumis à une raison, alors à ce moment-là, Dieu aurait été soumis à une raison extérieure à lui-même. Vous voyez, donc il serait plus la cause première. Donc il n'y a pas de raison qui est au-dessus de la création qui se fait par amour. Et donc, le sans pourquoi, c'est soit l'absurde, mm-hmm. soit la grâce.
Ah oui.
Le sans pourquoi, c'est il y a la gratuité de l'absurde, il y a la gratuité de la grâce. C'est-à-dire que ça peut être le vide absolu, comme ça oui. peut être la plus grande plénitude. Et c'est pour ça qu'il y a parfois, entre l'absurde et la grâce, quand on le vit existentiellement, quand on perçoit la gratuité de l'existence, soit on le perçoit dans l'amour, et à ce moment-là, on le vit avec une profondeur, une intensité de présence, soit tout d'un coup, on le perçoit sans amour. Et alors là, c'est un vide. Et c'est très facile de basculer de la gratuité de la grâce à la gratuité de l'absurde. Mm-hmm. Chez les saints qui faisaient cette expérience très forte de la gratuité, ils connaissent des nuits qui sont aussi des basculements de l'un à l'autre. Oui. Parce qu'à ce moment, ils sortent de l'explication causale, d'une certaine façon. Ils n'ont plus l'assurance du pourquoi. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est un point important, mais c'est très important. Créer par amour, ça ne veut pas dire pas pour ceci. Il n'y a pas un pourquoi. Et donc, ça veut dire que pourquoi la rose ? Bah oui, ultimement, on peut dire sans pourquoi. Si c'est par amour, c'est sans pourquoi.
C'est sans pourquoi, mais malgré tout, il y a une finalité. Par amour.
Oui.
L'amour est une fin.
Oui.
Et ça pose la question, et c'était mon idée derrière la question que je vous ai posée, d'une certaine conception de la fin qui est compatible avec le sans pourquoi.
C'est-à-dire oui.
qu'il ne se ramène pas à une explication
oui, oui, bien sûr.
d'une intention, d'un objet derrière un
exactement.
Ben oui, moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai essayé d'articuler dans mes articles, vous avez peut-être lu, mais. Tombe évidemment sur des difficultés, mais c'est ça, c'est... Enfin, là je parle plutôt de moi que de Portman, hein, ici, mais tout de même, je dirais, au départ, l'idée même de finalité ou de théologie m'était, horrible, si vous voulez, hein, parce que je la concevais comme... Une subordination instrumentale à un donné préalable, etc. Et donc, non, d'ailleurs, ça, c'est un peu rétrospectif, ça a été une partie de ma trajectoire. C'était une rébellion, en quelque sorte, contre... Et puis, il y a eu la découverte que, justement, on pouvait comprendre autrement la finalité. Et ça, c'est à travers ma lecture de Spemann. Mais tout ça... bon, ça reste à approfondir, évidemment. Enfin, en tout cas, je pense que... c'est d'où ce que j'avais... mon texte avait paru au départ dans la revue Les études phénoménologiques, la redécouverte de la question théologique. Et d'ailleurs, la même idée d'un questionnement. Si vous voulez, j'appelle ça aussi une interrogation sur les finalités. Donc, et dans un premier temps, c'est... se dire, enfin, il y a quelque chose comme une question qui est posée, ça n'est pas une fin qui est donnée, qui serait évidente, etc. Voilà, mais je pense qu'on est sur un accord profond à ce que vous avez bien compris, mais voilà, on est sur des terrains où tout, enfin, beaucoup de choses restent encore à penser. Voilà. Non, je pense pas que ça corresponde vraiment. Je pense que c'est ce que vous dites a un sens en soi, mais ça n'était pas comme ça que ça s'est passé, il me semble, chez lui. Hein, mais...
Le reproche qu'il fait à la science, Portman, c'est à la science qui s'intéresse à comment ça marche et pas à la question de l'apparition des formes. On cherche les structures cachées, c'est de dire que c'est finalement une science qui est beaucoup plus opérative. Qui cherche à agir sur le vivant. Ça, il le dit dans la forme animale. Hein. Il dit
Oui.
La génétique, c'est intéressant, notamment si vous voulez manipuler. Et que ça, il remarque qu'il y a ce... Voilà, il y a dans toute une certaine science, en fait, justement, une finalité, parce qu'on ne sort pas de la téléologie. Le scientifique, s'il fait de la science, il a bien une fin, ça. Non. Pourquoi est-ce qu'il en fait est-ce que c'est par pur amour du savoir? Enfin, ça supposerait quelque chose de très particulier aujourd'hui, le pur amour du savoir. Et souvent, la science, elle s'est trouvée subordonnée à des fins pratiques, opératives. Descartes le dit lui-même, enfin, on verra en cours justement la semaine prochaine, mais c'est pour l'utilité de la vie. On va aider les hommes avec les sciences. C'est, ça, il porte mal le titre.
Oui, attendez, je pense, je vois des mains, mais c'est aussi dans une pénombre, hein, je ne peux pas.
Juste sur la question de la finalité, parce que quand on parle d'autoconservation, on dit la forme et pour l'autoconservation. En fait, on est déjà dans un discours finaliste. Donc, il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. Est-ce que ce n'est pas la question de la gratuité, en fait, qui est centrale plutôt. Réintroduit pas, au fond, un discours finaliste. Quand on dit la forme est pour l'autoconservation ou la forme est pour l'auto-apparition, on est dans un discours finaliste. Est-ce que la nouveauté, c'est pas de réintroduire la notion de gratuité, en fait, plutôt?
Oui, peut-être que, évidemment, dans le discours même, hein, si on essaye de traduire ça, comme vous venez de le faire, la forme est pour l'auto-présentation, à ce moment-là, on introduit un pour et on... Au fond, on se trouverait à son insu dans cette structure à laquelle on veut échapper. Oui, ça n'est, c'est pas faux.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Spemann dit inversion téléologique. Il dit pas que c'est une sortie de la téléologie, mais un renversement.
Ce que j'ai compris avec Spemann, c'est que tout de même, c'est un... une déconstruction de la modernité, ou c'est, j'ai envie de dire, c'est en paraphrasant, enfin, la modernité a mis les choses sur la tête, nous, il s'agit de les remettre sur les pieds. Et remettre sur les pieds, ça veut dire concevoir que tous les êtres tendent à quelque chose. En quoi il cherche un accomplissement, enfin, c'est ce que j'ai compris, mais la pensée moderne a voulu trancher ce rapport-là. Voilà. Mais...
J'ai vu que le frère dominicain avait levé la main
J'ai trouvé très intéressant la distinction entre scientist et naturalist.
Ah oui.
Et ça m'a fait penser au snobisme intellectuel des physiciens, je peux le dire parce que j'étais physicien avant. Et surtout au physicien qui a dit, j'ai oublié de son nom, qui a dit au commencement du XXe siècle qu'il y a de la physique, il y a de la collection des tables. On pourrait lire l'histoire des sciences naturelles pendant le XXe siècle comme une colonisation de la biologie et de la chimie par la physique. Et je trouve que l'image violente est convenable parce que la physique procède en détruisant les formes. Par exemple, le physicien il regarde un arbre, il ne reste pas longtemps sur la forme, voilà. Et il cherche évidemment les plus fondamentaux, il coupe, encore il arrive à les éléments dits non coupables, les atomes, puis il les coupe. Mais après tout cela, comment sauver les apparences, comme vous avez dit. Et j'ai raison de dire que selon vous et selon Portman, c'est pas une question de penser différemment, mais de pratiquer, de faire différemment. C'est une question pratique.
Et là, j'ai bien compris le début de votre intervention, mais pas la question.
Par exemple, c'est si la forme des animaux est quelque chose à être vu. Et la solution, comment sauver les apparences, c'est en regardant les animaux, ou en les dessinant. C'est-à-dire que pour équilibrer la côté naturaliste, il faut pratiquer différemment, il faut avoir des animaux domestiques, par exemple.
Ah oui. Ah oui, mais ça c'est... Donc quoi, retrouver un...
La côté naturelle.
Oui, oui. Mais donc les... Enfin, je ne sais pas si on s'entend, mais donc le... Il y a la boutade méchante là, de ce physicien qui disait la physique et puis à côté il y a les collections de timbres. Moi j'ai envie de faire un plaidoyer pour les collectionneurs de timbres. Et les naturalistes au départ c'était des collectionneurs, des gens qui avec admiration, avec amour, des botanistes qui ont décrit, qui ont chercher aussi à classifier. Mais alors là, c'est intéressant, c'est que Portman parle beaucoup de la systématique, la taxonomie systématique. Ce serait un peu trop long à expliquer, mais que la taxonomie, au fond, au départ, voit qu'il y a des caractères de l'espèce, voilà, mais que ce n'est pas... Alors ça c'est un prolongement intéressant, c'est pas l'esprit humain qui cherche à classer, à catégoriser, il peut s'appuyer sur quelque chose qui a lieu dans la vie elle-même. Il y a une tendance, ça complète ce que j'ai dit, une tendance inhérente au vivant de se distinguer. Les animaux se distinguent des uns des autres ou affichent ce qu'ils sont. Donc ce n'est pas nous... une opération d'esprit humain qui délimite des concepts. Ou alors on en arrive à dire que les espèces n'existeraient pas. Hein, donc c'est ce qu'on appelle souvent le nominalisme des espèces. Bon. Mais il y a quelque chose dans le vivant même qui se distingue, qui se manifeste et qui attire l'attention des collectionneurs, pour commencer. Voilà. Oui.
J'aimerais revenir à la finalité. Par une question qui touche, vous avez parlé de l'auto-présentation, d'une sorte de contemplation des formes. Et je me demande par là si on peut peut-être placer la finalité dans la beauté. De dire simplement la beauté, ça peut sembler un peu naïf, hein, mais je fais référence aussi au sens artistique de Portman. Est-ce qu'on pourrait, peut-être placer
oui, la finalité? Évidemment, je dis évidemment, en même temps, je ne l'ai pas dit de manière explicite, mais il y a un sens de la beauté, il y a une sensibilité esthétique. Mais, et là, je complète un peu ce que je viens de dire d'une autre façon. Cette beauté n'est pas une beauté pour nous. Hein. Donc il y aurait toute une tendance, peut-être représentée par Kant, il n'y a pas le beau, le beau n'a pas d'existence en soi. Et donc, je crois que c'est comme ça que je comprends Portman en tout cas. C'est que cette beauté, en effet, nous apparaît, mais elle n'existe pas seulement pour nous, mais alors, en soi. En soi, c'est aussi des concepts un peu grossiers. Voilà, en tout cas, ça met en question l'idée d'une beauté qui existerait uniquement... par rapport à la subjectivité humaine, en tout cas. Ça, c'est un aspect très important, je pense. Oui, oui, tout à fait.
Vous avez parlé de rationalité élargie.
Oui.
Pas, et Portman aussi. Benoît XVI en parle aussi. Dans
voilà, écoutez.
Où est-ce qu'on peut dire que les concepts sont les mêmes et où est-ce que l'un ou l'autre part d'un autre côté?
Bon, d'abord, rationalité élargie, c'est moi pour commenter, mais effectivement, j'ai lu les discours de Benoît XVI et en particulier La leçon de Ratisbonne, deuxième partie, et, ouais, c'est un peu une citation, si vous voulez. Donc je suis là, effectivement, ça a beaucoup nourri ma propre réflexion, et je pense que c'est ce que j'ai retenu de mes lectures relativement récentes de Ratzinger. Hein, c'est quelqu'un qui a redonné un sens à la raison, à la rationalité, et avec cette idée d'une rationalité élargie. Et donc pour moi, mais ça je n'oserais pas le dire dans d'autres cercles que celui-ci, hein, donc je rapprocherais Ratzinger, mettons, de Husserl, de la crise, etc., de quelqu'un comme Whitehead, qui a écrit un très beau texte, Function of Reason. Donc voilà, enfin, donc ça ne vous a pas échappé, je confirme le rapprochement. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, nous reprenons. Voilà, on creusera encore demain matin une discussion. Merci.